Je vais me permettre de répondre tout de suite pour éviter de perdre trop de questions qui m'ont été posées. Donc moi, déjà, la première chose, c'est que j'aimerais comprendre votre logique. C'est vrai que je suis à la recherche de votre logique, parce qu'au compte administratif, vous n'avez pas du tout la même logique par rapport à ce que vous venez de dire pour le BP. Hormis la présence de monsieur le maire, je ne vois pas de changement, il n'y a pas eu de décalage horaire entre deux. Donc j'aimerais qu'on m'explique comment se fait-il que vous me dites qu'en réalisé, on soit en dessous des prévisions, et vous me dites que les prévisions sont trop importantes. Non mais, vous me dites que les prévisions sont trop importantes. Vous dites que on dépend, on va, on, vous voulez, vous dites qu'on, que la, le budget est primitif, donc c'est-à-dire que notre logique, c'est d'inscrire ce qui est certain ou ce qui pourrait arriver au pire. On est bien dans le pire. Parce qu'on peut pas, on fait pas un budget au doigt mouillé, comme on dit. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, au niveau des dépenses, vous voulez toujours qu'on dépense plus au compte administratif, et vous me dites au budget qu'on prévoit trop de dépenses.
Parce que par rapport à la prévision, bien sûr, on discutait tout à l'heure sur les écarts, vous prévoyez beaucoup, mais donc c'est plus sincère par rapport à ce qui va être réalisé. Déjà maintenant, les 3 330 000 euros d'emprunt, on sait très bien, et là on comprend très bien que vous n'allez pas les lever, surtout avec les restes à réaliser, ce que vous avez. Mais alors pourquoi inscrire 3 330 000 ?
Alors, voilà. Je vais vous rappeler un principe très simple des finances publiques, c'est l'équilibre. Je dois inscrire autant de recettes en face des dépenses, ou autant de dépenses en face de recettes. C'est le simple. C'est la simple application des finances publiques qui existe depuis très, très, très longtemps. Oui. Alors, vous me dites également qu'il y a des baisses importantes au niveau de certaines prévisions, notamment l'entretien des bâtiments. Rassurez-vous, on ne va pas laisser... Non, mais on ne va pas laisser les bâtiments... se détériorer. Loin de là, on les améliore. Je vais vous citer quelques exemples, notamment. Mais là, on a ajusté par rapport à ce qui se faisait précédemment. Il y avait une provision qui était trop importante. Donc, moi, je ne veux surtout pas qu'on dise qu'on va laisser les bâtiments, parce que c'est ce qui avait été dit sous le précédent mandat. C'est ce que chaque équipe reproche à l'équipe précédente, comme quoi, quand ils arrivent, il y a des bâtiments qui sont dans un état de délabrement incroyable. Voilà. Tous les bâtiments, les toitures à refaire, tout ça, ce sont des reproches. Mais nous, nous avons comblé aussi ce retard. Chaque équipe a essayé de combler ce retard. Et là, je peux le dire aujourd'hui, mais il y a un dossier qui date depuis plus de 30 ans. J'ai dit en commission, mais là, on peut le dire ce soir, qui sont les alarmes. Il y a des bâtiments dans la ville qui n'avait pas d'alarme. Je rappelle que le local de la police municipale, le local des armes, n'était pas sous alarme. On a repris toutes les installations, que ce soit les écoles, que ce soit les comités, les bâtiments des comités de quartier ou les salles de sport, sont tous sur alarme aujourd'hui. Alors, on fait attention à l'entretien des bâtiments et on les protège de potentielles dégradations. Donc, on ne peut pas avoir ce reproche au niveau de l'entretien des bâtiments. Au niveau des prévisions que nous avons...
C'était une question, hein, ce n'était pas un
reproche. Non, mais il y a quand même une insinuation. Et vous avez dit, si, le risque c'est de ne pas entretenir les bâtiments. Vous avez bien dit, le risque, c'est de que les bâtiments se dégradent. Voilà. Donc moi, je vous prouve que, par rapport à ce qu'on a fait... Et ce qui est prévu, il n'y a pas de risque. Après, il y a eu tellement de questions que j'en perds le fil. Je suis désolé. Mais donc, je vais revenir aussi à la logique de l'emprunt. Donc, l'emprunt, on reste sur ce que je vais encore renvoyer à ce que j'ai dit précédemment et ce que j'ai dit il y a quelques années. On ne veut pas emprunter inutilement. Les taux, je rappelle que les taux, et ça, la ville n'est pas responsable, même le gouvernement n'en est pas responsable. Les taux, il y a quelques années, étaient aux alentours de 4, voire un peu plus. Aujourd'hui, on est sur des taux qui avoisinent les 1,5. On a même réussi à obtenir un emprunt à 0,90. Et pourquoi on réussit à avoir aussi des emprunts à des taux inférieurs? Pas parce qu'on va emprunter une bonne somme, c'est parce qu'il y a une question de solvabilité. En rétablissant l'autofinancement, en ne souscrivant pas des emprunts inutiles, en faisant des efforts sur le quotidien, on réussit à avoir des taux plus intéressants. La gestion au niveau d'un emprunt, que ce soit pour une collectivité ou pour un particulier, le prêteur, la première chose qu'il regarde, c'est la solvabilité de celui qui souhaite souscrire un emprunt. Donc nous sommes sur la même logique. Mais bon, ça, il faut quand même le répéter. Enfin, il faut au moins le dire. Après, je ne sais pas, je ne sais plus s'il y a peut-être des choses que j'ai. Si, une question sur le personnel, parce que vous avez parlé du personnel. Oui. Non, mais parce que je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit au niveau du, au niveau du personnel. Je me suis demandé si... donc, est-ce que vous pensez qu'on a trop de personnel aujourd'hui?
Non.
Donc, non, mais c'est pour ça que je pose la question.
Absolument pas. C'est un constat, et je dirais que le constat, c'est pour les années à venir. Mmh. Vous l'avez dit d'ailleurs en commission.
Oui. Ah,
ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est à la santé, mais c'est dans les années à venir. Dans les années à venir, en anticipant. Moi, là j'ai un peu peur, excusez-moi, mais il peut y avoir des lois favorables aux catégories les plus défavorisées, ce que je suppose ici tout le monde souhaite.
Bon,
il y a aussi d'autres aspects qui peuvent arriver, et comme on est déjà dans une zone... malgré les efforts qui sont faits. Et ces efforts, on les reconnaît. Vous avez fait des regroupements, il y a eu des mutualisations, on ne peut pas dire là-dessus que rien n'a été fait, ce serait faux. Mais dans les années à venir, si jamais tout cela arrive, comment faire? Voilà. Alors, c'était plus ça que mon interrogation.
Non, ça on est bien d'accord, mais il y a le pourcentage. Et l'année dernière, ou il y a pendant quelques années, on a eu ce débat concernant la part du personnel concernant les dépenses sur les dépenses réelles de fonctionnement. Je vous avais expliqué, et tout le monde était d'accord, que cette part mécaniquement augmentera si on diminue les autres postes. Maintenant, il faut quand même regarder aussi quelque chose que j'ai rapidement évoqué lors du DOB, c'est l'effet ciseau. Il faut voir la progression de nos dépenses de fonctionnement par rapport à nos recettes de fonctionnement. Et quand aujourd'hui, on rétablit l'épargne nette, donc notre autofinancement, on voit qu'on dégage des marges de manœuvre, bien sûr, il faut toujours les maîtriser. D'ailleurs, vous nous faites le reproche de maîtriser et de ne pas dépenser sur certains postes. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre d'une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement d'1,4% depuis 2014, tandis qu'auparavant, on était plus sur le mandat précédent, on était sur une augmentation des dépenses réelles de 15%. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas attention et qu'on ne maîtrise pas cette part. On va faire le travail aussi pour voir l'augmentation des dépenses de personnel pour savoir la progression exacte par année. Bien évidemment, on va le faire en détail. Mais attention, ce travail, on ne peut pas le faire en quelques instants parce que les chiffres, vous savez que certaines personnes peuvent toujours les manipuler. Donc, ce que nous allons faire, c'est bien comparer avec les services municipaux qui étaient transférés au CCAS ou alors retransférés à la ville. Car, suivant les années, les charges de personnel peuvent bouger. Mais si on ajoute aujourd'hui les charges de personnel du CCAS, le montant du personnel sera plus important, car c'est un budget annexe. Donc ce travail global, on est en train de le faire, on est en train de travailler sur le sujet, ne vous inquiétez pas. On maîtrise les dépenses de personnel. Bien sûr, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il y ait une mobilisation plus importante de tous les élus de France concernant les contrats aidés, car c'était aussi une diminution, comment dire, une aide qu'on avait dans la formation du personnel qui était importante. On a également des dotations qui sont en diminution. On a fait quand même beaucoup d'efforts au niveau du personnel. Et sachez une chose, c'est que le personnel a toujours joué le jeu. Parce qu'ils savent très bien que c'est dans leur intérêt. Et que la fonction publique territoriale, comme la fonction publique hospitalière et comme les agents de la fonction publique d'État, ils savent très bien que c'est leur image et qu'ils font les efforts. Et honnêtement, il y a eu beaucoup de propositions qui devaient dater d'il y a quelques années, ou de mandats bien précédents, qui ont été mises en place. Et souvent à la demande des agents. Et il y a des discussions qui sont faites. Bien évidemment, ce n'est pas évident de dire au personnel, bah, y a ça, on doit arrêter, on doit modifier. Pour les agents, c'est compliqué aussi de changer, parce que l'humain est de cette nature. On n'aime pas trop le changement. On aime bien avoir une certaine visibilité, un certain confort. Mais on travaille là-dessus, et en faisant ces efforts, on a aussi réussi à donner de la souplesse et de la facilité d'accès à quelques informations pour les Lissois. Je vais reciter l'exemple du guichet unique, mais au moins pour l'inscription en garderie, aux accueils de loisirs et à la restauration municipale, c'est le même lieu. Tandis qu'auparavant, il fallait jongler suivant les services.